Paul Sécur, épisode technique. Je suis accompagné de Renaud. Est-ce que tu peux te présenter?
Bonjour Nicolas Loïc et merci pour ton invitation. Je suis Renaud, je suis un des fondateurs d'une société de cybersécurité qui s'appelle Synactive. On est spécialisé dans la sécurité offensive avec plusieurs activités de pen test, de reverse engineering, de développement sécurité, de réponse à incident.
Très intéressant. D'ailleurs, on va commencer avec le sujet de reverse engineering. Est-ce que tu peux donner une définition pour qu'on s'accorde sur qu'est-ce que le reverse engineering et incidemment, qu'est-ce qu'on va couvrir plus tard?
Le reverse engineering, ou plutôt ingénierie inverse, on va quand même essayer d'utiliser un maximum de français dans ce podcast. L'ingénierie inverse, c'est l'art, à partir d'un programme qui a été compilé, d'essayer un maximum de retrouver une vision, une représentation de ce que fait ce programme, du code source qui a permis de créer ce programme. Donc à partir des 0 et des 1 formés par le binaire de ce programme, soit le fichier, l'exécutable du programme, soit le programme qui tourne une fois qu'il est dans la mémoire d'un appareil informatique, d'essayer de l'analyser, de comprendre ce qu'il fait, d'essayer d'y trouver éventuellement des vulnérabilités, des risques, d'essayer éventuellement de repérer des comportements malveillants, faire de l'ingénierie inverse sur des malwares ou sur des légitimes. Bref, c'est comprendre le fonctionnement d'un programme informatique et non pas une compréhension de surface, hein, telle qu'on le voit dans l'interface graphique, mais une compréhension profonde et détaillée de tout ce que fait son code ou de tout ce que peut faire son code informatique, y compris dans des parties un peu cachées, un peu obscures et pas directement accessibles aux utilisateurs.
Oui, très belle définition. À partir de là, et toi, comment t'es tombé là-dedans? Parce que c'est pas standard, les gens qui s'en vont dans ce domaine de spécialité-là. De toi, comment t'es tombé dans la marmite du reverse engineering?
Effectivement, moi, mes débuts en cybersécurité, je me suis plutôt passionné au début pour tout ce qui est intrusion sur les applications web. J'ai fait beaucoup de web en début. C'est un domaine passionnant qui, par certains aspects, est peut-être un peu plus accessible. À la montée en compétences sur du web est au début un peu plus facile, même si après on se rend très vite compte que le web à haut niveau peut devenir compliqué et que c'est un domaine qui est passionnant. Bref, j'ai démarré par le web. Hein. Il y avait notamment des ouvrages type Web Application Hacker Handbook qui reste aujourd'hui, je pense, une référence assez solide du domaine. Et au bout d'un moment, assez naturellement, j'ai vu qu'il y avait d'autres domaines que le web. Alors, il y a plein, hein, la sécurité des réseaux internes, des systèmes d'exploitation, Linux, Active Directory, je ne vais pas passer là-dessus. Et assez rapidement, on se dit, mais finalement, la source de tout ça, tout programme informatique, même un serveur web, au final, ça finit sur un processeur. Il y a des 0 et des 1 qui défilent dans les threads d'exécution du processeur. Et c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis dit, il faut comprendre ça. Il faut essayer de se rapprocher de la machine, du hardware. Et si on arrive à comprendre ça, en fait, on comprend tout. Ce qui n'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, il y avait une volonté de descendre au plus bas niveau. Au début, de façon assez amateur et curieuse, il y a une montée en compétences qui est quand même assez solide là-dessus. Mais voilà, je m'y suis mis progressivement. Il se trouvait que dans les premières sociétés où j'ai travaillé, il y avait peu d'opportunités pour monter en compétences sur ce sujet. Même s'il y a eu des très bonnes surprises, j'ai souvenir notamment d'un test d'intrusion externe pour une grande banque française. On a réussi à identifier une vulnérabilité de type buffer overflow, dépassement de tampons dans un programme CGI qui était exposé sur Internet, hein, sur un serveur web. Et ça a été une des premières missions où on s'est complètement mis un peu de côté tout le reste de la mission pour essayer de voir si jamais on arrivait à exploiter cette vulnérabilité à distance pour faire une démonstration au client de la possibilité de prendre le contrôle du flot d'exécution de ce programme qui tournait sur un serveur web bancaire à distance. Donc, c'était nos débuts avec des outils type l'IDBG et les vulnérabilités qui aujourd'hui sembleraient triviales, hein, des simples dépassements de tampons dans la stack. Mais c'était un très bon début. Puis après, il y a tout le perfectionnement derrière.
Oui, tu me rappelles beaucoup de souvenirs parce que j'ai pas tombé dans la marmite comme t'es tombé, mais moi, c'est plus c'est le début des années 2000, fin 90, début 2000, où quand j'ai commencé à jouer avec m'intéresser professionnellement à la cyber, où justement, j'ai fait ce genre de choses-là. Il y avait des challenges aussi, d'ailleurs. Il y avait des sites qui nous permettaient de tester ce genre de choses-là dans lesquelles on pouvait, puis d'aller faire ce genre de choses-là. C'est très intéressant, puis ça trahit aussi la couleur de tes cheveux et des miens au passage. ce genre de choses-là.
Et puis après, il y a eu un peu la phase perfectionnement, parce que à l'époque, là, je dois parler d'une époque, ça doit être 2005, et c'est encore... à l'époque, les gens qui sont sérieusement dedans, c'est plus les gens qui sont au niveau de la scène cracking, où ils essayent de contourner les protections logicielles, de vidéos, de logiciels, etc. Donc, c'est eux qui souvent sont assez costauds sur ces domaines. Et c'est d'ailleurs le cas du cofondateur de Synactive. Mais ce qui m'a après vraiment effectivement mis dedans, c'était non pas l'activité professionnelle, mais les CTF. En 2005, il y en avait peu. Il y avait peu de sites web où il était possible de monter en compétence sur le sujet. Il fallait compiler soi-même son propre programme vulnérable et puis le débugger et puis regarder comment l'exploiter. C'est un peu plus tard que sont arrivés tous les sites de challenge qu'on connaît aujourd'hui et qui sont incroyables pour progresser dans le domaine. Mais à l'époque, alors ça devait être 2009, hein, il y avait déjà des CTF organisés, notamment un gros CTF organisé à l'occasion de la DEFCON, une grosse conférence de sécurité à Las Vegas. Il y avait une équipe de sécurité francophone qui s'appelait les Routards, avec un bon paquet de gens, beaucoup de Français, quelques Suisses, un Belge, voilà, qui s'était un peu rassemblé pour essayer de faire quelque chose dans les phases de qualification et dans la finale qui avait lieu à Las Vegas, dans les grandes salles des hôtels là-bas. Et à l'époque, moi, je venais de déménager de Paris jusqu'en Australie, où j'étais à Melbourne. Et j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit « Renaud, on manque de gars pour aller à la finale de la DEFCON ». C'est vrai que moi, ma première réponse, c'était « Écoute, je suis nul, j'ai rien à faire là-bas, j'ai pas le niveau ». Et c'était un bon copain, Gaël, et il a un peu insisté. Il m'a dit, écoute, je sais que tu viens d'arriver en Australie, t'as pas encore trouvé de boulot. Plutôt que de trouver du boulot, eh ben, prends le temps de progresser. T'as 3 mois jusqu'à la compétition, tu t'y mets solidement et on va faire quelque chose de toi, entre guillemets. Et grand bien lui en a pris, car j'ai passé vraiment 3 mois assez intenses à progresser sur l'ingénierie inverse, l'exploitation de vulnérabilités. Bien sûr, aidé par toutes les archives des challenges du CTF DEFCON des années passées, par des bouquins type Reversing d'Eilam, qui vraiment est une grande bible à l'époque pour apprendre l'ingénierie inverse, pas que dans un objectif de sécurité, mais vraiment de compréhension d'un programme compilé, enfin de R. Et le grand moment est arrivé où on s'est tous retrouvés à Las Vegas dans cette grande salle pour cette compétition, où donc c'était à l'époque des systèmes FreeBSD, il y avait plusieurs programmes qui tournaient. C'était du 32 bits, c'était pour la plupart des vulnérabilités assez simples, et donc un CTF qu'on appelle attaque-défense, où chaque équipe avait un serveur à défendre, et chaque serveur était identique, et donc il fallait à la fois analyser les programmes qui tournaient sur le serveur que les organisateurs nous mettaient à disposition pour y trouver des vulnérabilités. Essayer si possible de patcher, de corriger ses propres programmes pour protéger son serveur et puis exploiter, attaquer les serveurs des autres équipes pour récupérer les drapeaux, les flags des équipes adverses et essayer de marquer un maximum de points pour essayer d'être le premier parmi, selon les années, entre 8, 10, voire jusqu'à 15 équipes, je crois, qui participaient à cette compétition. Là, effectivement, challenge super intéressant et grosse opportunité de progresser parce que l'équipe était très impressionnante à ce niveau-là. Il y avait des anciens qui faisaient déjà ce type d'activité depuis un bon nombre d'années.
Oui, c'est une très belle expérience. Puis, je me rappelle, je pense, mes premières années au DEFCON. Moi, je ne suis pas allé dans les compétitions, je ne suis pas allé dans les CTF. Je n'ai pas eu ce mérite-là, mais ma traque professionnelle a changé. Mais effectivement, c'est l'événement par excellence pour tester ce genre de choses-là. Mais c'est quand même un bon exploit d'avoir fait ça en 3 mois d'une connaissance modérée à une connaissance pour aller compétitionner au niveau... Au niveau DEFCON, là, c'est tout à fait exceptionnel, là, ce virage-là.
Il y avait une équipe solide derrière. Hein. C'est l'avantage des équipes. On ne se retrouve pas seul.
Oui, tout à fait. Par la suite, donc, j'en comprends que ça l'a mené aussi à ton développement professionnel qui a suivi. Là.
En 2012, effectivement, on a créé donc une société spécialisée en cybersécurité, Synactive. Et au début, on avait une activité de test d'intrusion un peu plus classique, mais qu'on essayait quand même de réaliser avec beaucoup de brio et de panache. Et c'est vrai que progressivement, on a toujours eu cette envie d'essayer d'aller vers des sujets touffus, techniques, des sujets où certains autres concurrents se disaient « ça demande trop d'investissement, trop de temps, c'est compliqué, les attaquants passent pas par là parce que c'est des attaques un peu qui à mener ». Et c'est vrai que, pas immédiatement, mais peut-être 3 ans après la création de Synactive, on a commencé à essayer de faire de plus en plus de missions autour de l'ingénierie inverse, dans des secteurs assez variés, la protection logicielle, essayer de tester par exemple des outils d'obfuscation, est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'on peut les contourner, ce qui est notamment dans les DRM, ce type d'activité. On a eu certaines demandes autour de la compatibilité, de la rétrocompatibilité de certains logiciels, un client qui veut s'interfacer avec un outil de cryptographie dont les spécifications sont pas claires et qui nous dit ben là ça bug, je comprends pas pourquoi, est-ce que vous essayez de nous aider. Même des fois des missions, des simples problèmes de performance sur des logiciels où l'éditeur veut pas perdre de temps entre guillemets à débugger un problème de perf précis et où on pouvait même être amené à faire ce type d'analyse hein, qui demande effectivement d'aller au plus bas et d'essayer de comprendre ce qui ralentit, ce qui bloque. Super intéressant.
Oui, c'est intéressant. Comme tu le mentionnes, c'est moins populaire. Puis c'est pour ça, d'entrée de jeu, je disais que c'est un peu moins populaire, cet univers-là. Les gens sont basculés sur le web et on touche à des niveaux d'abstraction qui sont beaucoup plus élevés. Mais il demeure qu'il y a toujours des programmes qui fonctionnent. Ça a un attrait très important. Puis on le voit davantage maintenant dans les attaques un peu plus ce qu'on considère sophistiqué maintenant qu'il était peut-être moins avant, les attaquants ont recommencé à retourner dans cet univers-là d'attaque. Ils ne font pas juste comme on voit le attaquer une interface web puis rentrer. Ils vont attaquer comme on a vu avec SolarWinds notamment, comme on a vu avec plusieurs attaques des Russes sur les infrastructures ukrainiennes notamment qui sont très comme ça. Stuxnet, c'est une très belle démonstration que ces attaques-là sont encore très valides en termes de choses et il y a un intérêt. Là. Et puis ça, sans parler de tous les systèmes embarqués qui vivent dans nos vies, qui eux-mêmes sont très, très importants.
Complètement. Effectivement, comme tu le dis, au final, on reste toujours sur des processeurs et puis malgré toutes les couches d'abstraction, ça finit toujours sur un processeur, il y a du code assembleur et des vulnérabilités qui certes aujourd'hui sont quand même beaucoup plus compliquées à trouver et à exploiter avec l'arrivée progressive de toutes les protections un peu génériques contre l'exploitation des corruptions de mémoire. On voit qu'il y a toujours pas mal d'opportunités de recherche dans le domaine, notamment... Là, c'est rigolo, aujourd'hui, tu parles, on vient juste de remporter le challenge Pwn to Own, donc on a 3 personnes de chez Synactive à Tokyo qui viennent de compléter cette compétition, et un très bel exemple de travail de génie inverse, hein, ça a été l'exploitation pour la 3e fois de la Tesla, où là, on arrive avec une série d'analyses assez bas niveau des différents composants de la Tesla à montrer une compromission depuis l'extérieur de ces systèmes. C'est des analyses qui, généralement, nous prennent plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Là, par exemple, l'attaque qu'on a réussi à démontrer dans cette compétition Pawn to Own, c'est une compromission successive qui démarre par le modem à Tesla, donc l'appareil qui finalement est en charge d'accepter les connexions téléphoniques qui permettent à la Tesla de se mettre à jour et de récupérer des informations à jour via un réseau téléphonique. On a une première vulnérabilité dans le modem qui permet de compromettre ce modem et de faire tourner du code arbitraire dessus. Modem, on trouve une deuxième vulnérabilité dans la partie infotainment, qui est celle qui est l'interface graphique, entre guillemets, présentée aux utilisateurs. Et de l'infotainment, on arrive à rebondir sur des systèmes de contrôle qui permettent après d'ouvrir les portes, de klaxonner, d'activer un peu tous les systèmes essuie-glaces phares de la Tesla. Ça, aujourd'hui, c'est des attaques. Pour les trouver, c'est beaucoup de reverse engineering, beaucoup de temps aujourd'hui réalisé par l'équipe Synactive, par deux personnes de l'équipe, hein, principalement Vincent et David, qui récupèrent un à un les binaires, qui essayent d'évaluer ceux qui sont les plus prometteurs en termes de vulnérabilité potentielle, et puis essaye de reconstruire un schéma mental de chaque portion de code pour essayer de trouver est-ce qu'à un moment il y a une erreur et est-ce que parmi les possibles erreurs de programmation, il y en a qui sont où les planètes sont suffisamment alignées pour permettre une attaque informatique et l'exécution de code arbitraire ou en tout cas de dérouter le flot d'exécution de telle manière à pouvoir exécuter des actions qui pourraient être considérées malveillantes si on n'était pas dans le cadre bienveillant d'une compétition où les ingénieurs Tesla sont pas loin pour regarder ce qu'on fait et progresser derrière.
Oui, ça, c'est un des aspects là, de ça. Puis ça, je trouve ça intéressant que ça demeure actif, ces communautés-là, puisque à certains moments, j'ai eu une inquiétude qu'on fasse comme le COBOL, c'est-à-dire que la disparition progressive des experts dans ces domaines-là, donc on devient de plus en plus aveugle sur ce qui se passe, on devient de plus en plus incapable de sécuriser correctement. Puis là, c'est une belle transition vers justement qu'est-ce que le quotidien chez Synactive, parce que là, tu as parlé d'une compétition, tu as parlé un peu de certains contrats que vous avez remportés, mais globalement, en reverse, comment tout ça se matérialise? C'est quoi votre vie dans le réel du tous les jours?
Alors, le quotidien de quelqu'un chez Synactive qui fait de l'ingénierie inverse, c'est une vie qui ressemble à celle de beaucoup d'ingénieurs et de beaucoup d'experts en cybersécurité, mais qui, c'est vrai, va souvent quand même avoir comme particularité par rapport à d'autres types de prestations de cybersécurité, d'être souvent très focalisé pendant longtemps, voire plus longtemps que ce dont on a l'habitude dans d'autres domaines, sur une technologie donnée. On peut imaginer, par exemple, on parlait d'un constructeur automobile, mais on peut par exemple citer un constructeur type IoT, par exemple, qui va faire une serrure connectée, qui va par exemple créer un système de contrôle d'accès qui va être relié et dont un des scénarios d'attaque sur le réseau Ethernet qui permet de relier ces différentes serrures, ces systèmes de contrôle d'accès sur un bâtiment, va partir du principe qu'un attaquant peut se connecter sur le réseau où les systèmes de contrôle d'accès sont présents. On va effectivement faire une analyse de la surface de vulnérabilité de ces programmes, quels sont les systèmes en écoute sur le réseau. C'est souvent, là encore une fois, si c'est dans l'équipe reverse engineering, c'est que c'est souvent des programmes qui sont codés dans les langages entre guillemets bas niveau, C++, souvent des langages où la gestion de la mémoire et de la sécurité de la mémoire est laissée en partie au moins à la responsabilité du développeur. Donc on va lister un peu toutes les interfaces qui acceptent des inputs, des entrées de la part d'un attaquant potentiel, et on va essayer de valider systématiquement si jamais la gestion de la mémoire est faite de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de vulnérabilité possible. Et donc on va partir à la recherche de ces vulnérabilités. Selon les clients, ça va être soit très facile, encore malheureusement des sociétés où bon, bah, les développeurs ont été sensibilisés, mais c'est quand même des langages compliqués. C'est faire un bon code C++ sans faire d'erreur, il faut vraiment être brillant. Donc souvent, on va quand même voir beaucoup d'erreurs. Après, la chance qu'on a quand même ces dernières années, c'est que les compilateurs ont ajouté énormément de protections génériques. Les compilateurs vont ajouter énormément de protections qui font que plein d'erreurs de programmation n'auront pas d'impact ou peu d'impact sécurité. C'est ce qu'on appelle des vulnérabilités non exploitables. Et donc, on va continuer à chercher jusqu'à potentiellement trouver une, plusieurs vulnérabilités qui, elles, vont vraiment présenter un risque de sécurité. Et on va les remonter au client, leur expliquer, ben voilà, là, si quelqu'un arrive sur ce réseau de contrôle d'accès, s'il envoie ce paquet, suivi de tel paquet, et ben, on arrive à prendre le contrôle de ce système, à ouvrir toutes les portes de votre bâtiment, ou en tout cas à contourner la sécurité de ce système. Et puis après, on va progressivement, ben, prendre tous les, soit tout le code source, soit tous les binaires qu'on a reçus de ce système-là, et puis lister un maximum de vulnérabilités pour que dans la prochaine version de son logiciel, le client s'améliore plus en plus, et puis avoir un système solide contre des attaquants qui peuvent être compétents et déterminés à trouver ce genre de bypass.
Oui, puis comme tu l'as mentionné, le C, puis à mon avis, le C devient comme le COBOL. C'est un peu ça aussi que je mentionnais. Il y a de moins en moins de gens qui le maîtrisent et encore moins en moins de gens qui le maîtrisent bien. Parce que c'est très violent comme langage. On a un contrôle sur la machine qui est démesuré pour ce qu'on devrait pouvoir être capable de faire. Là. D'où des langages comme le Rust qui viennent remplacer ce genre de choses-là. Mais il demeure que sur des systèmes embarqués, c'est encore très, très, très ou trop présent. Là, comment on peut voir les choses et à quel point on peut exploiter ça. Puis heureusement, les compilateurs ont chose. Mais ces éléments-là présentent-ils des difficultés particulières justement dans votre travail où vous devez comme pivoter sur d'autres facettes pour justement continuer à être capable d'exploiter?
Alors effectivement, il y a des langages de programmation. Je dirais que tout langage a des vulnérabilités potentielles, mais on va dire qu'il y a des langages où on verrait une erreur significative toutes les 100 lignes de code. Il y a des langages où ça va plutôt être une erreur significative toutes les 10 000 lignes de code, quoi. Voire même beaucoup moins. Donc il y a des langages qui effectivement vont être directement plus vulnérables. Il y a les options de compilation, il y a le système d'exploitation sous-jacent qui va aussi apporter énormément de protection. Et faut être honnête, je pense que si le niveau de sécurité actuel de beaucoup de programmes a progressé, c'est certes en partie à cause de l'amélioration du niveau de sensibilité des développeurs en sécurité, mais c'est aussi pour beaucoup grâce à toutes ces mitigations, grâce à toutes ces techniques génériques qui, une fois qu'elles sont implémentées, empêchent les gens de faire des bêtises. C'est un peu comme les statistiques qui montrent que sur les routes, la baisse du nombre de morts dans les accidents de voiture sont probablement plus dues à l'amélioration de la sécurité des voitures et des constructeurs et des airbags que finalement à l'amélioration de l'attention des conducteurs. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on observe.
C'est une belle parenthèse pour deux choses, parce que une facette, c'est que comme il y a des moments, des éléments de sécurité, on l'avait vu avec les ceintures de sécurité notamment, les gens deviennent plus négligents aussi. Fait que j'imagine qu'avec les développeurs qui supposent que les langages viennent les protéger, vont être probablement plus négligents sur l'ensemble, vont être moins assidus sur s'assurer qu'ils respectent des normes de sécurité. Et effectivement, c'est ça, il y a moins de morts, mais les gens sont toujours aussi distraits, puis même plus distraits maintenant avec toutes les technologies qu'on a dans les autos, là.
Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a aussi un écart qui se crée entre les meilleurs élèves et le fond de la classe, une espèce de rupture numérique entre certaines sociétés de la Silicon Valley, les grands éditeurs de téléphones, les Apple, les Samsung qui ont beaucoup investi sur la sécurité, qui mettent en place énormément de revues de code, d'amélioration de leurs process, qui deviennent, il est vrai, des bons élèves, hein, même si jamais l'actualité récente avec des attaques comme triangulation sur les iPhones montre qu'il est toujours possible de trouver des vulnérabilités et de les exploiter. Et ça devient quand même des très bons élèves. Là, la découverte de vulnérabilités significatives est très complexe. Et d'un autre côté, un fond de classe qui se préoccupe un peu de sécurité, mais qui n'a pas forcément ni le budget, avec souvent un time to market qui est assez serré, de la pression des investisseurs pour être rapidement sur le marché, pour se dire bah d'abord on conquiert le marché, après on fera de la qualité et de l'ingénierie solide, problème qui a probablement toujours existé. Et le souci de tout ça, c'est qu'il y a du coup une communauté sécurité qui a progressé, dont les outils et les techniques d'investigation ont progressé pour être au niveau, pour analyser les programmes les mieux sécurisés. Communauté cybersécurité qui a appris un peu à se confronter à des cas compliqués type Apple, type Android, voilà les produits un peu de tous ces leaders. Et c'est souvent assez surprenant quand vous mettez un expert cybersécurité qui a passé 6 mois à tester des produits de très grande qualité, dans un bon niveau de sécurité, quand il revient chez un client qui n'a pas toute cette culture. Là, c'est sûr que là, c'est vulnérabilités tombent les unes après les autres parce que voilà, vous êtes dans une compétition de MMA où vous affrontez les meilleurs et puis tout d'un coup vous retombez face à un club local où les gens n'ont pas eu le même niveau de sensibilisation, l'investissement et les outils pour faire aussi bien.
Oui, ça doit être très, très apparent. Puis en plus, je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas, en tout cas dans l'espace public. C'est sûr que c'est très grandiose de parler comme cette semaine, c'était Microsoft qui a annoncé des problèmes. Puis en part ça, c'est même pas des problèmes de programmation, c'est des problèmes d'entretien dans ce cas-ci, qui ont été négligents dans ce cas-ci. Même des compagnies comme ça finissent par y arriver à échapper des éléments, mais dans l'ensemble, c'est très, très complexe, c'est très, très difficile de s'y attaquer puisque il y a tellement mis d'ingénierie sur différentes facettes. Mais encore là, on l'a vu avec le Flipper Zero qui était capable de faire crasher des iPhones parce que il y a la stack Bluetooth avait été mal sécurisée. Et c'est des systèmes qui sont tellement complexes que même ces grands éditeurs-là ont de la difficulté à étendre les bras puis à tout ramasser, même si c'est possible. Fait que les petits qui n'ont pas des millions à mettre en cyber sont pas capables d'arriver à ce genre de choses-là. Et justement, dans le quotidien d'un analyste, ça doit être spécial d'arriver dans un combat où justement tu parles du MMA puis tu tombes dans un club disons local ou régional où le niveau est pas tout à fait le même. Ça doit être tout à fait là, tu dis ça tombe vite, mais ça doit être assez bizarre aussi comme changement de paradigme.
Et il y a aussi un autre phénomène intéressant hein, qu'on observe déjà depuis maintenant longtemps, c'est aussi la présence à tous les niveaux, même dans des énormes projets logiciels, de portions, de bibliothèques, de code open source récupérés tels quels en l'état sur Internet et intégrés dans des projets, y compris par exemple, tu parlais de stack Bluetooth. Nous, ça nous est arrivé de tomber sur des projets où on se rendait compte que la stack Bluetooth utilisée, c'était une archive zip récupérée sur un serveur sur Internet, intégrée telle quelle dans le projet, sans relecture et de toute façon sans avis critique, parce que si t'es pas un expert du Bluetooth, bon courage à toi pour commencer à plonger ton nez et améliorer une stack Bluetooth. Et en fait, c'est des bibliothèques. Une fois qu'elles sont intégrées, plus personne n'y touche, plus personne ne regarde comment ça marche. Souvent, on se rend compte que derrière le projet open source, c'est un gars derrière dans une ferme au fin fond d'une campagne, un mec très bon. C'est pas le boulot. Et on se rend compte qu'il y a des aberrations, et y compris dans des gros projets, y compris dans des gros projets de Google, où on se retrouve avec des portions de logiciels open source où le développeur lui-même se rend pas compte à quel point son code qu'il avait bien développé, mais qui ne maintient pas forcément, se retrouve utilisé dans des projets incroyables. Et on le revoit partout. On le revoit par exemple sur Tesla. La vulnérabilité qu'on a exploitée l'année dernière, c'était du code open source, bon, qui était certes développé chez Intel. Et c'est des portions de code Wi-Fi à l'époque qui étaient disponibles en open source et où je suis même pas sûr que le dev côté Intel était au courant que son code était utilisé sur la Tesla.
Non, c'est ça, c'est la prolifération. Puis d'ailleurs, tout l'intérêt d'avoir le SBOM au niveau ce qui est sorti, là, on dévie un peu dans d'autres choses, mais ça permet justement de voir toute la profondeur et la dépendance dans lesquelles on utilise des éléments de façon très, très importante. On a fait un bon tour d'horizon, parce que dans le fond, c'est le but du premier, c'est de faire un tour d'horizon. Ensuite, on va descendre dans des cas plus concrets de reverse engineering. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, que tu aimerais aborder en conclusion?
Oh, c'est un métier passionnant, c'est un métier qui permet pour les gens qui aiment rester concentrés très longtemps sur un même sujet et de comprendre en détail tout ce qui se passe. C'est un métier passionnant qui forcément nécessite un bon niveau d'investissement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une informatique qui est vraiment devenue une fractale. Il y a tellement de couches d'abstraction, il y a tellement de sous-systèmes. On pourrait par exemple parler des GPU, où c'est encore des choses complètement différentes. C'est une exploration passionnante, soit pour y trouver des vulnérabilités, soit juste pour comprendre comment fonctionne un système. C'est un des plus beaux métiers du monde.
Oui, je suis entièrement d'accord, mais j'ai pas ce degré, cette capacité de concentration continue pour être capable de descendre dans des projets comme ça. Je te remercie beaucoup pour ce premier tour d'horizon, puis j'ai très hâte au prochain, parce que là, on va vraiment creuser dans du croustillant. Et là, je pense qu'on va avoir encore beaucoup plus de plaisir à creuser ces éléments-là.
Ce sera un plaisir.